D'abord, bienvenue à tous et c'est une joie de retrouver ce lieu, de retrouver ce jeudi soir de rencontres, d'enseignements, de prières. Donc j'espère qu'ils vous nourriront, faites confiance à Dieu, pour relayer ma parole, pour l'approfondir, pour l'amplifier. Donc cette année, ces jeudis sont consacrés tout spécialement à l'évangile selon saint Marc. Comme je l'ai mis dans le mail adressé aux pèlerins de la Terre Sainte, du mois de février, ces rencontres, cette école de prière du jeudi n'est pas réservée aux pèlerins, elle n'est pas non plus obligatoire pour les pèlerins, mais je pense que c'est vrai qu'elle est un lieu très favorable pour déjà s'imprégner de ce pèlerinage, pour déjà se projeter en quelque sorte en Terre Sainte, pour se rendre compte de ces lieux où nous allons passer, nous allons marcher, ces lieux où le Christ Jésus a vécu, ces lieux où le Fils de Dieu nous a aimés. Bien sûr que le Fils de Dieu nous aime, et puisqu'il est Dieu, il nous aime partout, mais en tant qu'homme, il s'est incarné, il a vécu sur une terre, au milieu d'un peuple, et c'est de là qu'il a répandu son amour infini, qui est passé à travers son cœur humain, à travers sa nature humaine, et ce sont dans les lieux que nous arpenterons au mois de février, si Dieu veut. Donc je pense que cet évangile selon saint Marc et cette école de prière, il est d'un profit évidemment pour tous, parce qu'il est très important de connaître l'évangile. On va voir pourquoi il est si essentiel de lire l'évangile, mais c'est vrai qu'il y a un accent tout spécial pour les pèlerins de Terre Sainte, qui en plus, mais à travers ces jeudis, apprendront aussi à se connaître. Si vous voulez faire un petit point donc sur le pèlerinage avant de commencer l'évangile, selon saint Marc, parce qu'on m'a posé la question, donc il y a 25 inscrits sûrs, 6 probables, une nouvelle pèlerine ce soir, donc on peut même dire qu'il y a 26 sûrs. L'équipe aussi que je n'ai pas compté, donc peut-être 8 probables et 3 un peu plus incertains, ce qui fait que ça montera assez vite, je pense, que j'espère, au chiffre de 35, qui est pour l'instant le nombre de places réservées dans la ville. Je faisais un petit point sur le pèlerinage, donc il ne fait pas passionner ceux qui ne partiront pas en Terre Sainte, mais je vous promets, je ne fais pas ça à chaque fois, mais juste pour situer un petit peu. Donc il y aura voilà, normalement 6 très probables, plus les kiffeurs que je ne sais pas en quelle dans quelle catégorie classée, il y a des incertitudes médicales. Et 3 un peu plus incertains, et une guest star, puisque normalement l'abbé Rondeau viendra faire le pèlerinage aussi avec nous. Bon, après, je mets des bémols d'usage, parce qu'en tant que prêtre, on ne sait jamais, sauf si on est l'aumônier, mais on ne sait jamais si on peut vraiment se libérer. Normalement, là, il a trouvé des remplaçants adéquats pour nous accompagner, ce qui serait vraiment une grande joie pour moi, pour vous tous, et puis aussi un soulagement, parce que si on est deux prêtres, par son centre de pèlerin, c'est quand même plus raisonnable. Voilà, donc ça c'est ce petit point sur la Terre Sainte. Marie-Jo Sauvageau m'a demandé aussi si j'avais un guide à recommander. Alors c'est vrai que l'agence de route biblique, dans son inscription, recommande un guide que je ne connais pas très bien, pas du tout même. Et en revanche, l'abbé Eva, qui a pèleriné plusieurs fois, m'a beaucoup recommandé Le Monde de la Bible, qui est un hors-série. Alors, qui malheureusement est introuvable aujourd'hui en version papier, mais qui m'a envoyé en version scannée, mais en parfait état de lisibilité, c'est comme le magazine. Donc, je pourrais, pour ceux qui le demandent par mail, vous envoyer le lien, et ensuite, soit vous le lisez sur une tablette, soit vous l'imprimez. Ça fait comme un magazine, c'est vraiment le magazine qualité papier, mais scanné, ce qu'il est. Introuvable maintenant. Le Monde de la Bible hors série. Ouais. Alors, à moins que vous le trouviez. et qui fait ça? Bah, c'est le monde de la vie. Mais je pense, mais je voyais que je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas trop dire. Il m'a envoyé le lien cet après-midi, j'ai rapidement regardé, mais pas plus que ça. Mais voilà, je pourrais vous l'envoyer. Peut-être que vous pouvez même le trouver sur Internet avec les références, sur des sites d'occasion, ou à la bibliothèque diocésaine, ou voilà, peut-être des pistes aussi pour trouver en version papier. Peut-être chez les sœurs, ou voilà, c'était tout à fait possible. Je ne sais pas. Je vais regarder, mais je vous enverrai ça. Ceux qui sont intéressés, voilà, me demandent par mail, et puis je vous enverrai tout ça. Pour rentrer donc dans l'évangile de Saint-Marc, j'ai commandé des petits évangiles donc, qui sont à votre disposition. Si vous n'en avez pas, il y en a une vingtaine, donc éventuellement, je peux en recommander. Bon, j'ai pas d'action dans cette édition, je n'ai pas de préférence, vous pouvez tout à fait venir avec vos propres évangiles, votre volume personnel. Bon, l'avantage voilà, de travailler avec ça, c'est qu'on a tous la même traduction, c'est qu'on a tous la même pagination, donc c'est peut-être un peu plus simple, mais voilà, certainement pas obligatoire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Après, pour ce qui est du pèlerinage, donc, il y aura aussi deux soirées, vous l'avez vu, vraiment dédiées au pèlerinage, qui permettront aussi de présenter en approfondi, de façon spirituelle, de façon matérielle, le pèlerinage, et puis de répondre aux questions. Si vous n'avez pas de questions, eh bien, nous commençons tout de suite par le premier verset de l'Évangile selon saint Marc, qui va être d'une grande richesse, puisqu'il va, je pense, nous occuper durant... toute la soirée. Alors, pour ceux qui n'auraient pas le texte, je vous le lis. Il n'est pas trop dur à retenir. Donc, le premier verset du premier chapitre. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Déjà, on va s'en tenir là, parce que rien que ça, c'est déjà très riche. Bon, je vous promets que nous ne ferons pas un verset seulement à chaque école de prière, parce que sinon, il faudrait demander une grâce d'immortalité, je pense, pour pouvoir le finir. Voilà. Mais c'est plus que le premier verset, c'est le titre, en réalité, parce que dans l'Antiquité, on ne donne pas forcément de titre. C'est le premier verset, c'est les premiers mots qui font office de titre. C'est le titre et c'est même, on va voir, l'énoncé du plan, en fait, de tout l'ouvrage. Donc c'est un verset qui n'est pas anodin, qui n'est pas commun. Donc je vais le découper, puis on va parler des différents mots qui composent ce premier verset, qui sont des mots clés, évidemment, pour notre recherche et notre méditation. Le premier mot, c'est le mot évangile. Donc, c'est déjà ce premier mot qui va nous occuper. Donc, je vais développer trois petits points. Pourquoi lire l'évangile? Comment lire l'évangile? Et que signifie vraiment ce mot évangile? Donc, vous m'arrêtez dès que vous voulez. Pourquoi lire l'évangile? Donc, je pointe trois raisons principales. Une première raison culturelle et historique. L'évangile irrigue notre civilisation, notre littérature, notre peinture, et même, je dirais, notre langage commun. Quand un joueur de foot a été particulièrement brillant, on dit aujourd'hui il marchait sur l'eau. Donc, vous voyez, c'est même dans les matières qui peuvent nous paraître très loin de l'évangile, et bien souvent, des images, des expressions de l'évangile, quand on dit quelqu'un, on l'a cru, c'était comme parole d'évangile, et puis, nous pensons à tous les chefs-d'œuvre de la littérature, de la peinture qui s'inspirent de l'évangile. Je me souviens, quand j'étais en Hippocagne, on était allé au Louvre, et on passe devant les Noces de Cana, et finalement, la plupart des étudiants étaient persuadés que c'était la dernière scène, parce que, pourtant, en Hippocagne, c'est pas littéraire. Mais ayant peu de culture biblique et évangélique, ils voient Jésus à table, en déjà il connaissait quand même la dernière scène, le dernier repas du jeudi soir, c'est déjà pas mal, mais voilà, en fait c'était les noces de Cana. Et notre professeur de français d'ailleurs nous avait dit, sur votre table de chevet, sur votre table de nuit, il faut avoir la Bible. Pourtant c'était une classe prépa de lycée public, mais justement parce que la Bible est vraiment la grande inspiratrice de toute la culture occidentale et européenne. Donc c'est la première raison, pas la plus forte, mais enfin, elle est quand même d'importance. La deuxième raison, pour progresser, pourquoi lire l'Évangile, c'est aussi une raison missionnaire. Parce que si nous disons à un musulman, à un protestant avec lequel nous discutons que l'Évangile est la parole de Dieu, vraiment cette parole, cette lettre d'amour que Dieu écrit au monde, cette révélation que Dieu fait de l'intimité de son cœur. Et s'il nous demande, mais du coup, vous l'avez lu ? Non. Pas très crédible, en fait. Un protestant, lui, partagera notre goût de l'Évangile, mais pensons à un musulman, qui en plus, pour lequel le livre sacré a une importance toute particulière, parce que dans la religion musulmane, c'est ça qui est au centre. Si on lui dit qu'on n'a pas lu l'Évangile, qu'on ne connaît rien du tout de l'Évangile, il va se dire, les chrétiens sont des farceurs. Comment pourrait-on croire que c'est la parole du Dieu vivant alors qu'il la délaisse dans un coin de leur bibliothèque pour lire d'autres livres? Donc je dirais qu'il y a aussi une raison missionnaire, de crédibilité de notre parole missionnaire, que de lire l'Évangile et de le connaître. Et puis une raison aussi, on peut dire apologétique, c'est-à-dire de défense et d'exposition de la foi, parce qu'on peut aussi être taquiné, on peut aussi être attaqué, on peut être aussi questionné sur la foi. Et donc si on ne connaît pas du tout l'Évangile, c'est un peu embêtant. Ça ne veut pas dire qu'il faut connaître l'Évangile forcément par cœur, de A à Z, et être absolument impeccable sur toute question, mais là, il y a des grandes lignes à connaître, et puis il y a un certain réflexe aussi à acquérir. Donc, première raison, la raison culturelle et historique. Deuxième raison, apologétique et missionnaire. Et puis la troisième raison qui est la plus forte, que j'appellerais la raison spirituelle ou mystique, c'est que l'Évangile, justement, on vient de le dire, c'est cette lettre d'amour que Dieu écrit. Et on peut dire ça de toute la Bible, mais l'Évangile, c'est le sommet, c'est le cœur de toute la Bible. L'Évangile, c'est le Christ. C'est le Christ que l'on voit vivre sous nos yeux. C'est le Christ que l'on entend quand on entend les paroles, et ces paroles, elles nous sont adressées, parce que le Fils est Dieu, donc quand il parle, sa parole a une résonance infinie. Voilà. Quand le Christ à Capharnaüm parlait du pain de vie, dans sa science divine, il voyait toutes les communions de l'histoire, il voyait toutes les messes célébrées par tous les prêtres de l'Église, et donc il nous voyait aussi en train de communier. Donc il y a ce lien, vous voyez, entre le passé et le présent. L'Évangile, certes, est une parole qui historiquement a été prononcée à un jour du temps, un jour d'histoire, aux alentours des années 30 de notre ère, 30 après la naissance du Christ, mais ça a un retentissement jusque dans le présent, d'une part parce que Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu'il prononce ses paroles, comme je vous le dis, ça a un écho infini. Et puis aussi parce que l'Esprit Saint qui a inspiré les auteurs évangéliques continue de travailler dans notre cœur, donc continue de nous éclairer, continue de faire germer, de féconder finalement cette graine de la parole de Dieu. Donc voilà, il y a cette raison mystique. Par la lecture savoureuse de l'Évangile, nous voyons le Christ Jésus vivre devant nos yeux, pour qu'ensuite il vive en notre cœur et que nous puissions refléter, que nous puissions rayonner de cette vie du Christ. Saint Jérôme, dans une phrase bien connue, disait « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. » Ignorer l'Évangile, c'est ignorer le Christ. Et on peut retourner la phrase, disant « Connaître l'Évangile d'une façon personnelle, savoureuse, c'est connaître Jésus. » C'est vraiment entendre Jésus nous parler, non pas d'une parole extérieure, mais d'une parole qui nous transforme. Et puis en petite note, donc on peut ajouter évidemment cette raison toute spéciale de préparer le pèlerinage. Il ne faut pas espérer meilleure préparation que de s'immerger déjà dans l'Évangile qui sera notre guide, notre fil directeur tout au long des 8 jours en Terre Sainte. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Donc, raison culturelle et historique, raison missionnaire, raison mystique. Alors, deuxième point, comment lire l'Évangile? Alors, moi, je vous conseille de lire l'Évangile tout d'abord d'une traite, ou autant que possible d'une traite. Si vous n'allez pas avoir le temps de tout lire en une fois, mais en tout cas, une première lecture assez générale. Ne pas s'arrêter dès la première lecture au verset qui vous touche, ou au verset que vous ne comprenez pas, ou... Mais d'abord, voilà, essayez de le lire dans sa globalité pour en avoir une vue générale. Et dans un deuxième temps, le reprendre, et là, vraiment, s'arrêter beaucoup plus longtemps sur les passages, et le cas échéant, le faire avec un petit livre, un petit carnet et un crayon à côté, pour noter à la fois justement les passages qui nous inspirent, les passages qui nous touchent, donc les passages aussi que nous aurons plaisir et profit à reprendre dans notre oraison, dans nos temps de prière, et puis aussi noter les passages qu'on ne comprend pas, les passages qui nous paraissent obscurs, justement pour qu'on puisse en parler, soit lors de l'école de prière, soit en aparté, après une messe, ou lors d'un rendez-vous. Mais voilà, je pense, lire d'une traite, et ensuite revenir petit à petit. Et quand je dis revenir petit à petit, ça peut être aussi justement vraiment faire de cet évangile un temps de prière. Donc vraiment lire petit à petit, petit morceau par petit morceau. Donc il ne s'agit pas de le lire comme un roman, évidemment, ou comme un toute vitesse en survolant. Et il ne s'agit pas non plus de le lire comme un objet d'étude purement intellectuelle. Vous voyez, le danger, c'est peut-être aussi de s'arrêter juste à l'emballage intellectuel. C'est bien de chercher où sont les lieux dont parle l'Évangile pour les situer dans la géographie, de voir qui était Hérode le Grand dans l'histoire. Tout ça est très bien, effectivement, ça peut être fructueux, mais enfin, il ne faut pas s'arrêter là, il faut voir que c'est davantage encore qu'un livre historique, c'est davantage qu'un livre spirituel, c'est la parole de Dieu. Bon, il ne s'agit pas de lire comme un roman. L'Esprit Saint qui a inspiré l'auteur sacré il y a bientôt 2000 ans est à l'œuvre dans mon cœur. Il m'éclaire et me dévoile le sens du texte, en même temps qu'il le fait résonner dans mon âme et dans ma vie, afin que j'entende en vérité ce que le Christ ressuscité aujourd'hui veut me dire à travers sa parole. Donc, comment lire l'Évangile? En entier, puis en s'arrêtant. Ni comme un roman, ni comme un objet d'étude purement intellectuelle, mais vraiment comme la parole de Dieu. Et pour la lecture ensemble, donc quand on le lit ensemble, n'hésitez pas à m'arrêter pour avoir des éclaircissements, c'est le but. Donc pourquoi lire l'Évangile? Comment lire l'Évangile? Que signifie vraiment Évangile? Donc qu'est-ce que ça veut dire Évangile? C'est un petit piège. Ah, effectivement, ça veut dire bonne nouvelle, mais en même temps, ça peut être un peu piégeux comme traduction, parce que bonne nouvelle, ça peut très vite être un peu plat. Bon, bonne nouvelle, le cousin Dédé s'est enfin fait opérer de l'orteil. Bonne nouvelle, je sais pas, le PSG a enfin perdu à Liverpool. Bon, c'est des choses un peu plates, oui. Réjouissantes, mais plates. Et ce serait caché que à l'époque où les évangélistes écrivent, un évangile, c'est aussi un édit impérial qui annonce une décision ou un événement qui va faire, normalement, le bien du peuple. Vous voyez, c'est pas seulement, c'est un mot grec, évangélion, et après latin, évangélium. Et donc il y a un enracinement de ce mot. Alors ça peut dire, ça peut vouloir dire effectivement bonne nouvelle dans un langage courant, voilà, je vous apporte une bonne nouvelle, mais ça a aussi un sens technique plus fort. Voilà, lorsque Auguste naît, par exemple, lorsque un prince impérial naît, eh bien, on fait paraître un évangile. Voilà. On annonce finalement cette bonne nouvelle, cette heureuse nouvelle qui aura un retentissement sur toute la destinée de l'Empire, puisque voilà, un prétendant, un prince, un futur empereur est né. Donc vous voyez, ce serait dommage de passer à côté de ce sens, puisque on peut imaginer que les évangélistes l'ont aussi pris pour cela. C'est-à-dire, c'est un édit, non pas de l'empereur, mais de Dieu, du roi de l'univers, qui proclame une annonce, une décision qui, elle, effectivement, va faire le bien de tout le peuple, même de tous les peuples de la terre, qui est le rachat de l'humanité, le salut de l'humanité par l'envoi du Fils de Dieu qui va venir mourir et ressusciter pour nous, qui va venir nous racheter de nos péchés. Vous voyez, c'est aussi un sens qu'il ne faut pas oublier. Donc ça, c'est l'ancrage, on va dire, impérial païen. Et on peut aussi signaler que ce mot d'Evangelion, donc en grec, Evangelium en latin, bon, Maria III, je trouve très mal, mais elle a tout à fait raison, traduit aussi un mot hébreu qui est Bessora. Et Bessora, ça veut dire aussi une bonne nouvelle, mais avec une dimension de soit de danger écarté, soit de victoire. Vous voyez, c'est pas la bonne nouvelle de Dédé qu'il faut opérer l'orteil, c'est pas la bonne nouvelle du mercato hivernal du Paris Saint-Germain, c'est une bonne nouvelle dans laquelle la vie était engagée. Donc, par exemple, dans l'Ancien Testament, on trouve ce mot appliqué, par exemple, quand Absalom, donc le fils rebelle de David, meurt. Enfin, rien, c'est une bonne nouvelle de toute relative pour Absalom, mais pour David, effectivement, qui avait dû partir en exil parce que son fils le menaçait, qui était vraiment en lutte avec lui, bah, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Pareil dans le livre d'Isaïe, on trouve ça pour annoncer la fin de l'exil et le retour du peuple juif au pays. On appelle ça, voilà, la bonne nouvelle. Vous voyez, il y a une dimension de profondeur, d'intensité, et en même temps un peu de question de vie ou de mort dans la Bessora, que traduit aussi le mot évangile. Donc c'est pour ça, voilà, bonne nouvelle en français, c'est très amoindri. Non, on n'a rien. C'est pour ça qu'il vaut mieux garder évangile, en fait. Parce que, oui, il y a certains prêtres, par exemple, pendant la messe, ils disent « Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc ». Bah, c'est un peu dommage, parce que, outre que, bon, dans la liturgie, normalement, ils vont écouter au bric, mais c'est dommage, parce que, oui, bon, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle, mais, enfin, passer de la perte au salut, passer de l'obscurité à la lumière, passer de l'éloignement de Dieu à l'adoption filiale, c'est une révolution, c'est un bouleversement, c'est un cataclysme au sens du terme. Et donc c'est sûr que bonne nouvelle, on risque d'amoindrir, on risque de diluer. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de garder évangile en expliquant ensuite l'évangile. Mais j'avais, c'est toujours un petit peu l'équilibre instable dans lequel il faut être, c'est un peu comme transsubstantiation, c'est un peu comme le consubstantiel du credo. C'est mieux de garder le mot technique en l'expliquant plutôt que de choisir un autre mot de la langue courante qui risque en fait de dénaturer ou de vider de son sens le mot. Et c'est vrai que là aussi on touche du doigt quelque chose qui va revenir souvent dans l'évangile. À savoir que les mots humains sont quand même très insuffisants pour traduire le mystère de Dieu. Et je dirais, il y a une humilité du Fils de Dieu qui s'incarne, qui se fait chair, qui se fait homme dans le sein de Notre-Dame, mais il y a aussi une humilité de Dieu qui accepte que sa parole s'incarne, entre guillemets, dans des mots humains qui sont très insuffisants pour traduire ce qu'il dit. Donc, l'évangile, retenons, c'est pas seulement une bonne nouvelle, et l'évangile, retenons aussi, ce n'est pas seulement un ouvrage écrit. Parce que pour nous, évangile, ça fait beaucoup référence aux quatre évangiles, donc aux quatre livres, mais au départ, l'évangile, c'est beaucoup plus que les évangiles. L'évangile, c'est vraiment voilà, ce dessein de Dieu, ce projet de Dieu d'envoyer son Fils pour nous sauver et pour faire de nous des enfants de Dieu. Quand saint Paul dit « J'ai été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu », évidemment, il ne parle pas d'un livre. Il parle de ce projet de Dieu, de ce mystère de Dieu, d'envoyer son Fils. Donc ça, c'était sur l'évangile. Deuxième chose, pour continuer à enquêter sur ce premier verset, il manque quelque chose. Enfin, en tout cas, peut-être de notre point de vue, il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il pourrait manquer ? Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Bon, vous voyez, il peut manquer beaucoup de choses. Mais dans le cadre de notre école de prière où on fait l'évangile selon saint Marc, qu'est-ce qui peut manquer ?
Au départ,
il s'est
incarné, finalement.
Oui,
alors... Si
on regarde par rapport à la couverture. Non. Non, mais qu'est-ce qu'il y a sur la couverture et qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le premier verset ? Eh oui. Selon saint Marc, ça peut effectivement paraître évident, sauf que jamais dans tout l'évangile, on ne dira que c'est saint Marc qui a écrit cet évangile. C'est-à-dire que l'évangile selon saint Marc n'est pas signé, en fait, saint Marc. Alors, vous allez me dire, oui, c'est évident, il ne va pas lire. Sauf que, bon, aujourd'hui, quand vous achetez un livre, normalement, vous savez toujours qui est l'auteur, parce que c'est marqué sur la couverture, et que éventuellement il a fait une préface, etc. Là, saint Marc, vous voyez, ne fait pas de préface, en disant, moi, Marc, secrétaire de Saint-Pierre, je vais maintenant, à partir des témoignages que j'ai recueillis, vous exposer le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Saint Marc n'apparaît pas. Donc, je consacre une deuxième petite partie de cet exposé sur le premier verset à l'absence de la mention selon saint Marc. Donc, on va voir de nouveau trois parties. Pourquoi ai-je choisi saint Marc pour cette année ? Deuxième partie, d'où vient que le second évangile soit attribué à saint Marc ? Pourquoi saint Marc ? Est-ce que c'est... un moine bénédictin irlandais du XVIe siècle qui s'ennuie au fond de son couvent et qui, au lieu de se gratter les narines, se dit « Je vais faire une interprétation pieuse et je vais attribuer pieusement chacun des quatre évangiles à des personnages du Nouveau Testament. Voilà. » D'où ça vient. Et très rapidement, que sait-on de saint Marc et quelles sont les caractéristiques de son évangile ? Alors tout d'abord, pourquoi j'ai choisi saint Marc ? Parce que c'est un évangile destiné aux chrétiens d'origine païenne, essentiellement, contrairement à saint Matthieu qui s'adresse plutôt aux chrétiens venus du judaïsme. Donc, en tant que français descendant des Gaulois, on est davantage concerné. Je ne pense pas qu'on soit très branché Talmud et voilà, c'est pour ça qu'on connaît par cœur l'Ancien Testament, de sorte que l'évangile de saint Matthieu pourrait toujours nous parler par de multiples petites allusions. Donc, voilà, un évangile destiné aux chrétiens d'origine païenne, un évangile assez court, donc qui j'espère nous permettra d'être lu dans toute l'année. Un évangile qui est souvent regardé comme le socle de ce qu'on appelle les synoptiques. On va revenir tout de suite sur ce que sont les synoptiques. Et un évangile qui reflète la prédication de saint Pierre. Donc, en tant que prêtre de la fraternité de Saint-Pierre, et voilà, et vous-même chrétien lié à la fraternité de Saint-Pierre, ça nous parle aussi tout spécialement que Saint-Marc soit le secrétaire de Saint-Pierre, soit son fils bien-aimé, comme il le dit, Saint-Pierre, dans une de ses épîtres, et qu'il ait consigné par écrit ce qui fut évidemment premier. Avant l'écrit, il y a eu d'abord la prédication orale. Les apôtres, le jour de la Pentecôte, ne sont pas réunis au Cénacle en disant voilà, on va recevoir l'Esprit Saint, et chacun se met un bout, là, chacun se met un coin de la pièce, on sort le calame, le papyrus, et on y va, on écrit chacun un évangile, on prend les quatre meilleurs à la fin de la. Ben non. Ils ouvrent les portes, ils ouvrent les fenêtres, tac, et ils sortent et ils annoncent que le Christ. Que les Juifs et les Romains ont tué, il est ressuscité. Donc, ce qui est premier, c'est la prédication orale, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Mais, évidemment, l'Église se diffusant, les apôtres prenant de l'âge, peut-être certaines hérésies commençant à naître par-ci par-là, eh bien, on ressent le besoin de fixer cette prédication orale pour que elle soit lue dans toutes les Églises du bassin méditerranéen. Et donc, ce sera le rôle. C'est ce que nous enseigne la tradition de Saint-Marc, de fixer ainsi la prédication de Saint-Pierre.
Donc pourquoi il veut que Saint-Marc fixe la prédication de Saint-Pierre? Enfin, d'abord, je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression qu'on retrouve la paternité de Saint-Pierre dans les évangiles de Saint-Marc. Et deuxièmement, Saint-Marc est devenu un témoin de Jésus-Christ. Donc il n'a pas nécessairement besoin de Saint-Pierre.
C'est un terrible. C'est quand même terrible a priori sur ce point de Saint-Pierre. Alors, on pense que Saint-Pierre. Que Saint-Pierre s'écrit, on ne sait pas. En tout cas, il a quand même écrit deux lettres. Alors, on peut penser que que ça se faisait à l'époque. C'est souvent des secrétaires qui ont pu prendre en note la parole orale de Saint-Pierre. Donc, on peut penser aussi que c'est Saint-Pierre qui les a écrites. Saint-Marc, rien ne nous dit vraiment qu'il ait connu la vie du Christ pendant ses 3 ans de prédication, puisqu'il ne fait pas partie des 12 apôtres. Et si. Ah, voilà, mais c'est pour ça que je dis rien ne nous indique que. Peut-être qu'il fait partie des disciples qui sont. Dans le second groupe, on va dire dans le second cercle. Après, il y a un certain nombre de choses que seuls les 12 ont connues et ont vécues au contact du Seigneur. Vraisemblablement, Saint-Marc, il apparaît pour la première fois dans l'Évangile à Jérusalem, dans les derniers jours de la vie du Christ. C'est-à-dire, soit c'est le jeune homme qui s'enfuit tout nu au jardin des Oliviers, qui paraît assez vraisemblable, soit même c'est peut-être déjà la veille, l'homme qui porte une cruche d'eau et que les apôtres rencontrent dans les rues de Jérusalem et qui va les mener au Cénacle. C'est plus incertain. Mais en tout cas, voilà, assez vraisemblablement, Saint-Marc arrive dans la vie du Christ à Gethsémani, le soir du Jeudi Saint, lorsqu'il est juste vêtu d'un drap. On va y revenir dans quelques instants. D'où vient que, en tout cas, on pense que Saint-Marc a fixé la prédication de Saint-Pierre, on y arrive tout de suite. C'est ce que nous disent des auteurs majeurs des tout premiers siècles, donc Saint Irénée, évêque de Lyon, deuxième siècle, dans son ouvrage majeur qui s'appelle Contre les hérésies, nous dit « Après la mort de Pierre et de Paul, Marc, le disciple et l'interprète, donc interprète au sens de secrétaire, l'interprète de Pierre, nous transmit lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. » C'est assez clair. On peut aussi citer Eusèbe de Césarée, qui a écrit l'histoire de l'Église ou l'histoire ecclésiastique, un siècle après. L'évangile selon saint Marc fut écrit dans les circonstances suivantes. Pierre, ayant prêché la doctrine publiquement à Rome, ayant exposé l'évangile par l'Esprit, ses auditeurs, qui étaient nombreux, exhortèrent Marc, en tant qu'il l'avait accompagné depuis longtemps et qu'il se souvenait de ses paroles, à transcrire ce qu'il avait dit. Il le fit et transcrivit l'évangile à ceux qui lui avaient demandé, ce que Pierre ayant appris, il ne fit rien par ses conseils, ni pour l'en empêcher, ni pour y pousser. Et on parlait un peu plus loin, Eusèbe de Césarée rappelle une tradition du IIe siècle d'un auteur majeur qui s'appelle Papias, qui n'a pas gardé beaucoup de livres, mais qui nous est connu par les auteurs postérieurs. Marc était devenu l'interprète de Pierre et il mit par écrit avec exactitude, mais cependant pas dans l'ordre, tout ce qu'il se rappelait de ce qui avait été dit ou fait par le Seigneur. Mais oui, donc Saint-Irénée, Saint-Marc, disciple et interprète de Saint-Pierre, fixe pour prédication, Eusèbe de Césarée, pareil, Papias, pareil, et on peut citer aussi Saint-Justin, donc c'est pareil, on est au IIe siècle, dans son dialogue avec Tryphon, qui parle des mémoires de Pierre, et en fait, en citant ce qu'il appelle les mémoires de Pierre, il cite l'évangile selon Saint-Marc. Vous voyez, il y a vraiment un lien très fort, très établi, très ancien, entre la prédication de Saint-Pierre et l'évangile selon Saint-Marc. Et d'ailleurs, Saint-Marc n'épargne pas vraiment Saint-Pierre. C'est plutôt dans l'évangile de Saint-Marc que Saint-Pierre est présenté dans toutes ses limites, dans tous ses emportements, dans toutes ses incompréhensions. Et on peut voir justement dans les trois autres évangélistes une retenue d'une certaine manière. Voilà. On ne va pas mettre en lumière les faiblesses du chef de l'Église, du prince des apôtres, alors que Saint-Pierre, voilà, lui, devait dans sa prédication orale prêcher par l'exemple et dire, ben, vous voyez, moi aussi, je n'avais pas compris ça, j'ai mis du temps à comprendre, le Seigneur Jésus m'a dit que, etc. Et donc, on peut penser que ça marche, justement, avec honnêteté, sincérité, c'est avec l'aval de Saint-Pierre, a retranscrit aussi ses limites. Donc, pourquoi on a choisi Saint-Marc ? D'où vient que le deuxième évangile soit attribué à Saint-Marc ? Donc, je viens de vous le dire. Qui était Saint-Marc ? Donc, comme je vous l'ai dit, je pense que la première apparition, c'est au chapitre 14. Donc, les soldats viennent arrêter le Christ. Et l'évangéliste nous dit, à ce moment-là, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Or, un jeune homme le suivait, enveloppé dans un drap sur son corps nu, et on l'arrêta. Mais il lâcha le drap et s'enfuit nu de leurs mains. Donc ça, c'est Marc 14, versets 48 à 52. Donc, Saint Marc est le seul à rapporter cet épisode de ce jeune homme, qui n'a pas une importance cruciale quand même dans le déroulé de la passion, donc on peut penser que c'est lui. Et on peut penser donc que Saint-Marc habite le Cénacle, ou une pièce, ou en tout cas une maison très proche, et qu'il entend les apôtres sortir et qu'il les suit. C'est la nuit, donc il s'est sans doute allongé, il s'est dévêtu, il se relève, il met son drap, il les suit. Peut-être qu'il a entendu les soldats, en tout cas, parce que c'est les soldats qui l'ont fait sortir du lit. Quoi qu'il en soit, il a sans doute entendu quelque chose de décisif et il suit effectivement le Christ ou les soldats. En tout cas, il arrive à Gethsémani et là, il est sur le point de s'arrêter et il s'enfuit tout le monde. Donc, c'est vraisemblablement Saint-Marc. Il apparaît, Saint-Marc, en tout cas, là, de façon certaine, dans le chapitre 12 des Actes des Apôtres. Donc, on est aux Actes des Apôtres 12, versets 10-12. Saint-Pierre a été arrêté, il est miraculeusement délivré par un ange, et dès qu'il sort de la prison, il se rend à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. Là où l'église de Jérusalem se trouvait en prière, priant pour la libération de Saint-Pierre. Vous voyez, ça peut accréditer aussi l'idée que Marc peut-être habitait le cénacle, dans l'ensemble immobilier dans lequel se trouvait le cénacle, et puisque ce serait dans le cénacle, bien que se réunit l'église de Jérusalem pour prier, pour demander la libération de Saint-Pierre. Et on va retrouver Marc ensuite tout au long de l'évangile, tout au long des Actes des Apôtres, comme compagnon de Saint-Paul, dans un premier temps, et de Barnabé. Et ensuite, nous le verrons dans la première épître de Saint-Pierre, comme compagnon de Saint-Pierre. Bon, je ne vous donne pas toutes les situations, chapitre par chapitre, verset par verset, mais voilà. Il y a ce jeune homme tout nu, il y a la première mention, c'est Saint-Pierre libéré de sa prison à Jérusalem, qui revient tout de suite vers la maison de Marie, la mère de Marc, où l'église est en prière. Marc ensuite, qui, si je ne me trompe pas, est le cousin de Barnabé. Je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est le cousin de Barnabé. Marc est cousin de Barnabé, ça. Donc, Marc est le cousin de Barnabé, va partir avec Barnabé et Saint-Paul, puisque Barnabé est le premier compagnon d'apostolat de Saint-Paul. Mais il va y avoir une grosse dispute entre Saint-Paul et Saint-Barnabé, qui nous rassure toujours sur nos disputes diverses et variées, parce que Saint-Paul veut aller évangéliser une région un peu dangereuse, avec des fiers, avec des brigands, etc., qui est la Turquie, qui fait partie de la Turquie actuelle. Saint-Barnabé et sans doute Saint-Marc, qui sont Saint-Barnabé et Chypriote, ils aimeraient bien rester plus longtemps à Chypre pour continuer l'évangélisation Chypre. Finalement, bon, ils ne sont pas assez fait d'accord, et Saint-Marc retourne à Jérusalem, salut, moi je m'arrête là. Et plus tard, Saint-Marc tire la toge de Saint-Barnabé et dit, mais non, mais j'aimerais bien revenir évangéliser avec vous. Donc Saint-Barnabé arrive vers Saint-Paul, mon cousin, bon, il aimerait bien revenir avec nous. Et Saint-Paul, non, il n'y a pas question, il nous a lâchés comme un déserteur, moi j'ai besoin de gens fiables pour évangéliser. Et donc Saint-Barnabé, à ce moment-là, se séparera de Saint-Paul, ira avec Saint-Marc évangéliser, et Saint-Paul lui prendra Timothée, Luc, Silas comme compagnon. Ah, donc là, il y a eu une grosse crise, mais tout est bien qui finit bien, puisqu'après, dans les épîtres de Saint-Paul, Saint Paul parle de Saint Marc en termes très, très positifs, donc on pense qu'ils se sont réconciliés. Et ensuite, donc Saint Marc, comme on l'a dit, rejoindra Saint Pierre. Donc le jeune homme tout nu, la prison de Saint Pierre, la maison de la maman de Saint Marc, ensuite d'abord compagnon de Saint Paul, il le quitte lorsque Saint Paul veut aller vers la Turquie. Il n'arrivera pas à revenir après parce que donc, Saint-Paul ne voudra pas de lui. Saint-Paul est chaud, on est mal. Et donc, à la fin, donc, il se réconcilie et il ira compagnon de Saint-Pierre. Les caractéristiques en deux mots de l'évangile de Saint-Marc. Je vous lis un petit texte que j'ai trouvé sur Internet. L'évangile selon Saint-Marc est le plus court des quatre évangiles. C'est celui dont la composition est la plus dépouillée. Bien qu'il soit l'écho de la prédication du chef des apôtres, cet évangile a été passablement délaissé. C'est vrai qu'il est assez peu commenté par les pères de l'Église, au profit des textes plus développés de Matthieu et de Luc. Est-ce le grec parlé de Saint-Marc, donc là, il y a un grec très parlé, donc très oral, est-ce le grec parlé de Saint-Marc comparé au grec raffiné de Luc qui a rebuté les lecteurs? Est-ce à cause de son style concis, abrupt, qu'on lui a préféré Saint Matthieu avec son rythme large et posé, ses phrases claires et dignes? Est-ce parce que presque tous les textes de Marc se retrouvent dans Matthieu, Luc ou Jean, et que ceux-ci sont bien plus riches en paraboles de Jésus et en paraboles? Il a fallu attendre le XXe siècle pour que le second évangile retrouve une certaine audience. Donc, le plus court, un phrasé qui n'est pas très étudié, assez oral, et un style assez brut, assez concis, où on va beaucoup au fait, et qui donc retranscrit moins de discours, moins de paraboles que les trois autres évangiles. C'est une bonne question. Le métier de saint Marc, moi je ne le connais pas.
Il
était
jeune, il n'en a
peut-être
pas.
Peut-être qu'il en avait pas.
Ouais.
C'est pas.
Il savait que quand même, apparemment.
Il savait que, mais pas un truc de fou, quoi.
Ouais.
Oui, mais en fait, le grec de l'époque, c'est l'anglais d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est l'anglais. Non, mais l'anglais du Pakistan, du Nigeria, du Chili. C'est pas l'anglais d'Oxford Cambridge, quoi. C'est l'anglais passe-partout mondial, quoi. Et là, c'est ce qu'on appelle la koiné, c'est en grec la langue commune. C'est un grec un peu appauvri, un peu passe-partout, qui était parlé dans tout le bassin méditerranéen, en fait. Plus encore que le latin. Et c'est pour ça qu'on pense que Saint-Pierre, tout pêcheur du lac de Tibériade qui était, parlait sans doute grec, mais ce grec de la Koiné, parce que pour les échanges commerciaux, pour parler avec l'occupant romain, on voit qu'il y a souvent des Grecs qui s'approchent pour parler à Jésus, bah, ils vont voir justement, je crois que c'est Saint-André et Saint-Philippe qui sont de Bethsaïde, donc même coin que Saint-Pierre, parce qu'en Galilée, en plus, on était pas mal au contact des païens, donc Bethsaïde c'est tout en haut, hein, donc au nord du lac de Tibériade, donc dans toutes ces régions en plus un peu frontières, c'est quasiment sûr qu'ils parlaient un grec, mais je veux dire, le grec, on peut parler à New Delhi ou... Donc on ne sait pas le métier de Saint-Marc, et voilà, il y avait un style à construire. Et oui, j'avais oublié de vous dire ce que sont les synoptiques. Là, j'ai parlé des synoptiques, donc synoptique, c'est un terme un peu technique pour désigner les trois premiers évangiles, Saint-Matthieu, Saint-Marc, Saint-Luc. Ça vient d'un mot grec, donc j'en ai très grec ce soir, qui veut dire d'un seul coup d'œil. Donc, ops, l'œil, sun, avec. Donc, avec un seul œil. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec un seul œil? En fait, on voit les trois évangiles. Parce que si on met les trois évangiles sur des colonnes et qu'on met en vis-à-vis les scènes communes, eh bien, à travers ce système de trois colonnes, eh bien, on voit que beaucoup de passages de ces trois premiers évangiles sont communs. Ça ne veut pas forcément dire que le vocabulaire est le même, ça veut dire que tout est raconté de la même manière, mais il y a vraiment un tronc commun, il y a un socle commun, n'est-ce pas ça, Matthieu, Marc, Luc. Matthieu, Marc, Luc, et Jean, c'est vraiment davantage bande à part, en fait. Bon, je passe sur la question de qui est le premier, qui a inspiré qui à mon avis n'a aucun intérêt. Pendant des années, des décennies, on s'est arraché les barbes pour savoir qui était le premier. On a inventé la source Q donc pour trouver une autre source. À mon sens, ça n'a aucun intérêt parce que ce qui compte, c'est le texte qu'on a aujourd'hui qui est inspiré et qui nourrit notre foi. Mais tout au long du XXe siècle, les exégètes ont adoré essayer de retrouver les sources, les racines, donc des textes qui n'existent pas, au détriment du texte qui existe. Ils ont été écrits pendant le premier siècle, très vraisemblablement, en tout cas pour les trois premiers, avant la chute de Jérusalem, donc avant 70.
Avant le premier consul, le
premier siècle, je crois. La fixation, oui, c'est plus tard, je crois, c'est le deuxième ou troisième, je crois. Mais en fait, ce qui fait foi, plus encore que le concile qui a pu définir les évangiles canoniques, ce qui fait foi, c'est en fait quels évangiles l'Église a retenu, notamment dans sa liturgie. Parce que c'est justement... Il faut toujours se souvenir que l'évangile écrit n'est pas premier, donc que la prédication orale est première. Donc l'Église a retenu les évangiles écrits qui lui paraissaient conformes, cohérents et identiques à la prédication orale qui était entendue déjà depuis plusieurs décennies. Et c'est ces évangiles-là qui ont été gardés parce qu'ils étaient conformes à la prédication orale. Parce que nous, on est un peu légalistes, donc on a tendance à se dire, voilà, ces quatre évangiles sont canoniques parce que l'Église, à un concile, a décidé que. Mais non, en fait, le concile est beaucoup plus tardif. Il ne fait qu'entériner une situation de fait qui existe déjà depuis plusieurs décennies. Et cette situation de fait, c'est que l'Église a choisi ces quatre évangiles. Alors, d'une part, parce qu'ils sont sans doute les plus anciens par rapport à ce qu'on appelle les apocryphes. Et puis, surtout, parce qu'ils étaient conformes à la prédication orale qui, en fait, elle est le premier critère. C'est un peu comme les vérités de foi. Parfois, on entend l'Église ne croit. La présence réelle que depuis le 11e siècle, parce qu'il y a un concile au 11e siècle qui a défini les modalités de la présence réelle de Jésus dans la Sainte Eucharistie. L'Église n'a pas entendu le 11e siècle, c'est juste que pendant 11 siècles, c'était une vérité tenue de façon sereine et paisible, mais qu'à partir du moment où ça a été attaqué par des hérésies, il a fallu définir. Mais souvent, on confond la date de définition dogmatique ou canonique et
la
vérité, pareil pour la Sainte Vierge, pareil pour l'infaillibilité pontificale. Donc là, c'est pareil, il ne faut pas croire que l'Église a attendu un concile pour savoir quels étaient les évangiles canoniques ou quels étaient les évangiles non canoniques. Ce que, évidemment, en temps de persécution, l'Église pouvait difficilement se tenir en concile. Donc il y a eu tout un temps où.
C'était pour répondre aussi à des hérésies.
Mais voilà, c'est lorsque des évangiles qu'on appelle apocryphes ont commencé à prospérer et à se développer, que l'Église s'est dit, on va se réunir et puis faire le tour un peu de toutes les églises du bassin méditerranéen, voir quels sont les évangiles qui sont lus dans la liturgie, ceux qui sont admis comme étant depuis toujours venant des apôtres, et puis on fixera ça par écrit, et puis on mettra des peines pour ceux qui... veulent utiliser d'autres évangiles. Donc, c'est un but plutôt disciplinaire, en fait.
On dit que Saint Irénée est un peu influencé justement par l'histoire des évangiles canoniques.
Oui, mais là encore, c'est-à-dire que c'est à mon avis
un faux débat.
C'est
un faux débat.
Non, c'est pas un faux débat, mais c'est que en fait, Saint Irénée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, énonçant les quatre évangiles, on dit, c'est Saint-Irénée qui a défini quels étaient les évangiles canoniques. Non, Saint-Irénée, il constate quels sont les évangiles qui, de son temps, sont reconnus comme canoniques. Mais comme on a besoin de textes, comme les historiens, en fait, ils ont besoin de textes marqueurs, ils ont besoin de preuves écrites, ils disent, Saint-Irénée, dans les hérésies, il fait la liste des quatre évangiles, c'est sans doute lui qui... C'est sûr, comme ça, à Lyon, je me dis, tiens, je vais définir les quatre évangiles pour tout le bassin méditerranéen. Et puis le pape, j'espère qu'il sera d'accord. Ça paraît pas extrêmement crédible, en fait. Mais en revanche, c'est clair que Saint-Irénée ait pris en compte les évangiles qui étaient lus de son temps, qui étaient considérés comme canoniques, qu'il les ait présentés, et qui associe la fortune de Saint-Irénée, qu'il les ait liés à un animal de la vision d'Ézéchiel. Ça c'est Saint-Irénée. Je reviendrai sur la vision d'Ézéchiel. Juste apocryphe, peut-être, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde, donc on appelle évangile apocryphe des évangiles qui ne sont pas reconnus par l'Église comme reflétant intégralement la vérité de la foi. Donc des évangiles dans lesquels se mêlent des erreurs, des hérésies, et qui sont généralement plus tardivement apparu. Souvent les évangiles apocryphes sont du 2e siècle, et ils présentent soit une vision de Jésus hérétique, clairement, soit une vision de Jésus très merveilleuse, l'enfant Jésus joue dans la cour à Nazareth, il s'ennuie, donc il fait des petits oiseaux en glaive, et puis comme il trouve que c'est pas très amusant, il saute dessus pour que l'oiseau s'envole. Bon, c'est très mignon, mais il y a une inflation du merveilleux dans les évangiles apocryphes qui, par contraste, nous rappelle combien les évangiles canoniques, eux, sont modérés, en fait. Eux sont dépouillés. Les évangiles canoniques, parfois, ils vous parlent de choses extraordinaire, mais en deux phrases, et en les ayant dépouillés au maximum de tout le côté sensationnel qu'il peut y avoir. On a pu faire trois chapitres sur Jésus marchant sur les eaux. Et en fait, ça fait, fait deux phrases. Donc, voilà, les évangiles d'Apocryphe, souvent c'est merveilleux, parfois c'est hérétique, donc souvent c'est inspiré par ce qu'on appelle les gnostiques, c'est-à-dire l'idée que c'est la connaissance intellectuelle qui sauve. Donc il y a deux sortes d'hommes sur la terre, les savants et les idiots. Les savants sont initiés et seront sauvés, les idiots sont pas initiés et seront perdus. Donc en fait, il y a des évangiles pour la plèbe, donc c'est les évangiles canoniques, et puis il y a les évangiles pour les savants, donc c'est les évangiles apocryphes. Et comme c'est la connaissance qui nous sauve, eh bien il n'y a que l'esprit qui est bon, et au contraire, la chair est mauvaise, ce qui est un petit peu embêtant pour une religion de l'incarnation. Donc finalement, dans ces évangiles apocryphes, gnostiques, on va présenter l'image d'un Jésus qui fait semblant de se faire homme, en fait. Jésus ne s'est pas vraiment incarné. Il n'a pris qu'une apparence humaine. Mais ça, c'était juste de la blague. Parce que Dieu ne peut pas prendre un corps charnel, vu que la chair, c'est mauvais pour les gnostiques. Et donc, Jésus n'est pas mort sur la croix, évidemment, parce qu'il n'a pas de corps, il n'est pas mort. Donc, c'est un sosie. C'est mort à chaque fois. Ouais. Et on retrouve ça dans le Coran, en fait. Parce que Mahomet a été au contact plutôt de chrétiens gnostiques et des évangiles gnostiques qui s'étaient répandus en Arabie. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de choses qu'on retrouve dans le Coran qui viennent non pas des évangiles canoniques, mais des évangiles apocryphes.
Est-ce qu'il y a d'autres raisons, en fait, pour avoir gardé les trois?
Pourquoi on a gardé les trois? Déjà parce que les trois n'ont pas été écrits dans la même ère géographique, ni pour les mêmes lecteurs ou auditeurs, donc c'est sûr qu'ils ne se sont pas forcément concertés, les trois. Et donc, une fois que les trois étaient écrits, que les trois se sont diffusés, c'est sûr que l'Église, je pense, ne se sentait pas investie du pouvoir d'en écarter, alors que c'était des évangiles authentiques qui venaient de témoins authentiques, soit des apôtres, soit comme Saint-Luc et Saint-Marc, des secrétaires d'apôtres, de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Et donc, voilà, l'Évangile s'est dit, il faut garder ce trésor. D'autant que même s'ils sont synoptiques et qu'il y a beaucoup de choses en commun, chacun a quand même des passages particuliers, originaux. Chacun a une visée originale aussi. Vous voyez, Saint Matthieu parle aux chrétiens venus du judaïsme, présente Jésus comme le nouveau Moïse, le plus grand que Moïse. Donc même s'il raconte les mêmes événements, il n'a pas du tout la même visée que Saint Luc qui parle aux païens pour présenter Jésus comme sauveur du monde. Donc, chacun a une visée assez particulière aussi. Et puis ça montre bien que le mystère du Christ ne peut pas être épuisé dans un livre. Parce que le fait qu'il y en ait quatre, justement, ça protège de tout littéralisme, en fait. Il y en aurait qu'un, on pourrait dire, on absolutise le livre, Et en fait, non, le fait qu'il y en ait quatre montre que les Christ sont toujours plus grands que l'Évangile. Mais en fait, je me dis que, oui, j'ai pris 45 minutes, et ça fait un quart d'heure déjà que je parle. Il faut que je me mette aux nouveaux horaires, parce que l'année dernière, c'était une heure, mais... donc on va s'arrêter. Si vous avez des questions, je les poserai peut-être après, pour que tout le monde ait se coucher dans de bonnes conditions. Voilà, donc on se retrouve dans deux semaines, et nous parlerons quand même de la fin du premier verset, Jésus Christ, Fils de Dieu, qui est à la fois le cœur de l'Évangile et le plan de Saint-Marc. Donc on va monter à la chapelle, parce qu'il y en a qui doivent partir, parce qu'ils ont prévu à 9h30 de partir. Ceux qui peuvent ne pas partir tout de suite, on va monter pour un quart d'heure de prière. Ah oui, je pourrais tout à